Bonsoir à toutes.
Merci donc à Elisabeth et Philippe de nous avoir présenté si gentiment. Moi, j'aurais pas été compte que ça continue et qu'ils fassent la conférence, mais bon, tant pis, ça sera pour une autre fois. Bon, donc je vous présente un peu le menu de ce soir. Donc Céline et moi allons intervenir chacun de notre tour, comme vous pouvez facilement deviner. Vous avez certainement deviné aussi que c'est moi qui commence. Tant pis. Tiré au sort, c'est moi qui ai perdu. Donc je commence. Et donc, moi, la première chose que je vais faire, c'est vous présenter qu'est-ce que c'est que l'habitat créatif. Parce que c'est non seulement le titre d'un livre, mais c'est aussi une méthode que nous avons créée. Donc on va vous expliquer qu'est-ce que c'est que cette méthode, d'où ça vient, ses sources, etc. Donc ça, c'est moi qui vais surtout le faire. Ensuite, je passerai la parole à Céline, parce que notre but ensuite, après cette présentation, va être de vous présenter certaines des méthodes qu'on utilise, et autant que possible les plus originales, parce qu'il peut y avoir d'autres méthodes pour la maison, mais qui n'utilisent pas les nôtres, puisque les nôtres sont originales, puisque créées par nous. Donc on ne peut pas vous présenter toutes les méthodes qu'il y a dans le livre, il y en a beaucoup trop, mais on peut vous en présenter certaines qui sont spécifiques à nous et que vous trouverez nulle part ailleurs. Voilà, donc quand je passerai la parole à Céline, elle vous présentera justement une méthode qui s'adapte à l'habitat et puis qui peut découler sur quelque chose de très vaste sur la compréhension de où on vit et comment on vit et comment ça peut s'améliorer. Ensuite, je reprendrai la parole pour présenter deux autres méthodes qui sont dans le livre aussi et qui sont également originales. Mais je ne vous dis pas trop. Juste, ça va toucher l'architecture. Mais je ne vous dis pas trop, je vous laisserai découvrir. Puis Céline, après, reprendra la parole pour parler plutôt de l'aspect créativité et sacré. Parce que pour nous, c'est important de développer cette dimension dans la maison. Et pour ma part, je terminerai en continuant son élan sur l'aspect sacré et pour révéler une méthode que nous utilisons et qui a pour but d'élever le niveau vibratoire d'un lieu. Voilà. Ce qui fait qu'au final, ça va se terminer en principe là-dessus, sur le fait qu'il est très possible d'avoir une maison qui, énergétiquement, quand vous vivez dedans, il est quasiment impossible de tomber malade dans la maison. C'est impossible. Donc ça sera une bonne fin normalement. Et après nous aurons faim et nous irons manger. Et non, pas complètement, calmos. À la fin, si nous n'avons pas été trop longs, nous l'espérons, on ne peut pas le promettre quand même, on fera une petite période de questions, comme ça si vous avez des choses, vous n'avez pas bien compris, ou vous voulez en savoir plus ou quoi, ça sera possible. Et on terminera par une séance de dédicace. Voilà.
Oui, mais je veux bien.
Oui. Dédicace. Oui, mais pas sur mon corps. Sur les bouquins uniquement.
Et pour préciser, une séance de questions, donc c'est vous les questions et les réponses, c'est nous. C'est juste pour préciser.
Si on peut. Bon, cette fois, faut y aller. On se lance, on commence. C'est parti, pour de vrai. Donc tout d'abord, présentation de ce qu'on appelle l'habitat créatif. Ce n'est pas seulement un livre, mais c'est avant tout une méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous avez peut-être entendu parler du Feng Shui. Vous savez, cette méthode qui est de plus en plus connue depuis quelques 20-30 ans, peut-être. Feng Shui, c'est une méthode chinoise qui est très 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 ancienne, qui découle du mouvement taoïste. Et qui, en fait, est une méthode pour justement mieux habiter sa maison. Mais justement, nous ne parlerons pas de cette méthode puisqu'on ne la connaît pas. Mais pour vous donner un ordre d'idée, ce qu'on appelle comme méthode l'habitat créatif est en quelque sorte concurrent, on va dire. Enfin, se classe dans la même catégorie. C'est-à-dire une méthode globale pour la maison. Ce que j'appelle maison, qu'on appelle habitat, c'est aussi bien appartement que maison, bien sûr, hein, ou que yourte, si vous voulez. Mais le but, c'est de maîtriser tout ce qu'il y a chez soi, de faire en sorte que notre lieu de vie puisse donner le maximum de ce qu'il peut donner. Et on va voir que pour ça, il faut que ce soit l'être humain qui le fasse. Hein, ce n'est pas des meubles ou des gris-gris ou quoi que ce soit qui peuvent le faire. C'est notre implication dans la maison qui peut faire ça. et qui peut faire presque des miracles. Donc, nous avons créé une méthode. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Sur quoi elle se base? Eh bien, elle se base sur plein de méthodes, en fait. Donc, pour ma part, j'enseigne depuis une trentaine d'années. J'ai créé plein de méthodes, hein, de méthodes de travail sur soi, de connaissance de soi, des méthodes de méditation, de révélation de soi, de prise de conscience, etc. J'en ai créé environ 250, donc ça fait quand même beaucoup. Et parmi celles-là, il y en a donc que j'ai assemblées pour faire en sorte que ça devienne ce qu'on appelle aujourd'hui l'habitat créatif. C'est-à-dire la méthode de l'habitat créatif comprend en elle-même 10, 12 ou 15 méthodes différentes qui s'associent pour former un tout très vaste. Et en plus, chacune des méthodes qui sont utilisées ont été adaptées, bien sûr, à l'habitat. C'est-à-dire qu'avant, c'était des méthodes qu'on pouvait utiliser pour plein d'autres choses et qu'aujourd'hui, on utilise aussi pour l'habitat. Un exemple, l'astrologie. Bah, je suis aussi astrologue, j'ai écrit je ne sais combien de livres d'astrologie. Mais pour l'habitat, j'ai créé une méthode spéciale que j'ai appelée l'astrologie locale et qui est uniquement adaptée à la maison pour découvrir des choses sur sa maison et qu'on trouve nulle part ailleurs puisque j'en suis le créateur. Mais nous avons utilisé comme ça plein d'autres méthodes. Je peux vous donner quelques idées. Donc il y a bien sûr, comme je viens de le dire, l'astrologie et aussi la numérologie qu'on utilise d'une certaine manière. Pour ma part, je l'ai enseignée depuis aussi pas loin de 30 ans. Donc on l'a adapté aussi à la maison. Donc nous utilisons aussi ce qu'on appelle le phénomène ou le principe du miroir, dont Céline vous parlera tout à l'heure, qui a été adapté aussi pour la maison. La grande méthode que j'ai créée il y a très longtemps, au tout début, que j'appelle l'individualisation, est une méthode qui est adaptée aussi pour l'habitat et qui fait partie de ce cercle-là aussi. Et puis d'autres méthodes concernant la circulation de l'énergie ou l'éthique ou bien sûr des connaissances sur le fonctionnement et la constitution de l'être humain qui sont essentielles pour l'adapter aussi à la maison. Puis l'aventure héroïque aussi qui est une méthode pour atteindre des buts, réaliser des projets et qui là aussi a été adaptée. Donc aussi bien sûr tout ce qui concerne l'architecture et la géométrie sacrée, qui sont des méthodes qui ont été utilisées aussi pour être associées à l'habitat créatif. Et puis aussi quelques éléments de radionique. Donc la radionique, c'est une méthode en fait qui vient de France. On est champion du monde de la radionique, qui est en fait l'étude des formes et de ce qu'elles émettent. Parce que chaque forme émet un certain rayonnement qui n'est pas mesurable et pas connu par la science officielle encore, mais qui est connu depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années et qui repose aussi beaucoup sur la numérologie et qui est expliqué dans le livre. Donc c'est une méthode aussi qu'on a adaptée pour la maison. Et j'en oublie sans doute quelques-unes, comme par exemple, bien sûr, tout ce qui concerne le symbolisme, comme le symbole des couleurs, enfin, etc., etc. Donc ça fait au total un bon paquet de méthodes que nous avons redéfinies, recréées, pour qu'elles soient spécialement adaptées à la maison. Et c'est cet ensemble de méthodes que nous appelons l'habitat créatif. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée de nos sources, qui viennent donc de beaucoup de choses que j'ai moi-même enseignées au début. Et puis après, quand j'ai rencontré Céline, je lui ai montré ce genre de méthodes qui l'a beaucoup intéressé, qui l'ont beaucoup intéressé. Et donc depuis une douzaine d'années, elle-même s'est mise à travailler sur toutes sortes d'idées et de méthodes par rapport à la maison. Et puis, quand il y a environ 9-10 ans que nous avons déménagé et cherché une maison, bien sûr, nous avons profité de mettre tout ça en pratique à plein de niveaux, déjà pour trouver la maison qu'on cherchait, et puis, bien sûr, pour faire tout ce qu'il faut dedans. Donc, je vais vous donner un petit peu une liste, une sorte de programme idéal pour l'habitat créatif. Et donc, ça nous a permis d'expérimenter dans tous les domaines ce qui se retrouve en fait dans le livre maintenant. Entre-temps, nous avions créé un stage aussi, un premier stage il y a quelques années, où nous avions déjà mis nos premières idées. Et puis depuis, on a continué à progresser. Et donc, ce livre est le résultat de notre expérience, donc sur une trentaine d'années pour moi, sur une douzaine pour Céline. Et puis le résultat de notre vécu. Et Ben voilà, c'est à peu près ça. Donc bien sûr, il y a certains grands domaines comme l'astrologie ou la numérologie qui sont très connus. Hein. Ce n'est pas moi qui les ai inventés, ça c'est sûr. Il y a quelques méthodes comme ça que je n'ai pas inventées, mais que j'ai, mais à travers lesquelles j'ai créé certaines méthodes spécifiques pour ça. Alors, mon autre partie de présentation va consister à vous dire un petit peu ce qu'on a appelé l'habitat créatif en 10 leçons, hein, ce qui vous donne un moyen de, enfin qui vous donne, un moyen de vous faire une idée de tout ce que vous pouvez trouver comme méthode ou moyen qui se trouve dans l'habitat créatif en tant que méthode. Donc bien sûr, la première leçon, c'est assimiler ce que c'est. Donc là, pourtant, pour l'instant, on ne vous a pas dit grand-chose. On va développer certains de ces aspects dans le courant de la conférence. La deuxième chose qui est abordée donc, dans le livre, mais qu'on ne va pas aborder ce soir, parce qu'on ne peut pas tout aborder, c'est impossible. Donc ça concerne comment trouver son lieu de vie, comment trouver son habitat idéal. Et il y a des choses que presque personne ne connaît, qu'on met dans ce livre et qui vous permettent de préparer votre rencontre avec votre futur habitat. Parce que ça se prépare. Et ce n'est pas qu'une question d'argent ou qu'une question de travail. Tiens, il faut que j'aille habiter à tel endroit à cause de mon travail ou quoi. C'est beaucoup plus vaste que ça. Parce que nous, en fait, ce qui se retrouve partout dans notre méthode, c'est qu'on met l'être humain au centre. Par exemple, on ne va pas vous parler que tel matériau coûte plus cher ou moins cher, quel est le meilleur rapport qualité-prix, tout ce genre de choses, puisque vous trouverez des milliers de livres et des centaines de magazines qui le font. Donc nous, on ne traite pas de tout ça. On comprend bien sûr que c'est important que vous trouviez ce qui vous convient par rapport à vos moyens, mais nous, on ne parle pas de ça, puisque tout le monde l'a fait. Donc, nous, on parle plutôt de l'humain. Dans notre société, je trouve qu'on met trop souvent l'argent au premier plan, puis l'être humain après. Nous, on n'est pas d'accord avec ça. Nous, on trouve ce qui est le plus important sur cette terre, c'est l'humain. Donc, on met l'être humain en premier et on explique ce que peut faire l'humain. Parce que si on met l'humain en dernier, après tout ce qui est matériel, après tout ce qui est argent et tout, l'être humain, il n'existe pas beaucoup, quoi. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce qu'en fait, on se prive de tout un potentiel dont on dispose. Donc nous, au contraire, on met l'humain au centre et vous verrez, après quelques exemples qu'on va vous donner, que l'humain a un potentiel incroyable et que dans sa maison, il peut faire des choses que peut-être vous n'aurez jamais imaginées et que grâce à ça, il peut avoir une maison qui lui ressemble. Parce que notre sous-titre, c'est « être soi chez soi » et non pas être un anchois sans soi. Parce que l'important, dans votre maison, c'est d'être qui vous êtes vraiment. Donc vous avez peut-être déjà remarqué, je parle en tant qu'individu. Bien sûr, on pourrait parler en tant que couple, en tant que famille, etc. Mais ce serait beaucoup plus complexe et beaucoup plus long. Donc on choisit de parler d'un individu. D'accord ? Comme ça, c'est plus simple. Mais bien sûr, après, vous pouvez l'extrapoler à 2, 3, 4, 5 personnes, grands, petits, tous les âges. C'est une autre histoire, mais là on parle uniquement de l'individu de manière générale pour se faire comprendre plus facilement. Donc nous, être soi chez soi, c'est important parce que aujourd'hui, quand on va habiter quelque part, c'est toujours l'aspect pratique, matériel, argent, etc. qui entre en ligne de compte, mais on ne tient pas compte de l'humain en fait, on ne tient pas compte de ses besoins. Puis après, pour faire la déco et tout, on va tenir compte des modes, des tendances, ou ce que la famille veut, ou ce que nos voisins trouvent que c'est mieux, ou nos amis, ou quoi. Et en fait, nous, on l'a constaté très très souvent en allant chez les gens, ou en faisant des stages et en demandant aux gens comment ils vivent chez eux. Eh bien, en fait, la plupart du temps, les gens, chez eux, c'est pas eux qui y habitent. C'est un mélange d'amis, de la famille, de la société, des magazines, des bouquins, de trucs, de bidules, mais ce n'est pas eux qui habitent chez eux. Quoi. C'est-à-dire, ils sont emplis chez eux de plein d'autres choses. Et c'est une des raisons qui nous ont conduits à mettre cette méthode au point et écrire ce livre, pour dire aux gens, mais faites attention. Combien de temps vous passez chez vous ? La plupart des gens passent entre 14 et 16 heures par jour chez eux, ceux qui travaillent à l'extérieur, et ceux qui travaillent chez eux, ça grimpe beaucoup plus haut encore. Donc ça veut dire qu'on passe la majorité de notre vie chez nous, dans notre lieu de vie. Puis ça ne va pas diminuer avec la société moderne où on peut de plus en plus facilement travailler chez soi. Donc c'est un gros piège, parce qu'imaginez, si vous avez une maison dans laquelle il y a plein d'objets, plein de meubles, plein de choses qui ne sont pas vous, qui ne vous ressemblent pas, eh ben, faut pas croire que bon, c'est juste du matériel et que ça n'a aucune espèce d'importance, loin de là. Donc on vous en parlera un petit peu, on verra que ben, les murs ils sont habités, les meubles ils sont habités, les objets ils sont habités, tout. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas, parce qu'on est hyper matérialiste, que ça n'existe pas. Donc parfois, on se fait son malheur tout seul, alors qu'en fait, c'est très très important d'arriver que lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes vraiment chez vous, rien que chez vous. Hein, et si vous êtes à deux ou une famille, bah, tous les gens là, qui arrivent dans cette maison, ce soit la leur, que ce ne soit pas la maison des autres. Parce que sinon, comment voulez-vous récupérer ? Comment voulez-vous être en forme ? Comment voulez-vous être bien dans votre peau ? C'est impossible, quoi. Donc c'est surtout ça qui nous a motivés pour en fait découvrir tous les moyens possibles pour que l'être humain, quand il est dans sa maison ou son appartement, dans son lieu de vie, c'est vraiment le sien et qu'il l'habite vraiment. Et nous avons créé pour ça des dizaines de méthodes pour aider l'être humain à être vraiment lui-même chez lui-même. Donc c'est ça, c'est pour ça qu'on a mis ça comme sous-titre, être soi chez soi. Car pour nous, c'est vraiment essentiel. Donc je disais, trouver le lieu de vie, bien sûr, c'est important. Donc bien sûr, si vous l'avez déjà trouvé, dans notre livre, on explique comment ce qu'on appelle réinitialiser son lieu de vie, hein, le rebooter. On reboot un ordi, mais on peut rebooter son chez-soi aussi. Hein, donc... en fait, il s'agit de constater d'abord suis-je bien chez moi ou pas, et pourquoi, et comment, etc. Mais quand on a fait toute l'analyse, et bien après, il suffit de voir ce qu'on veut changer. Et à ce moment-là, on peut rebooter, enfin, réinitialiser son appartement ou sa maison. C'est-à-dire comme si on entrait, paf, maintenant, 3, 2, 1, paf, j'entre. Et donc, j'enlève tout ce qui ne va pas et je le remplace par tout ce qui pourrait aller. Hein, c'est pas forcément des choses grandioses, énormes et tout, mais l'essentiel c'est que d'arriver à un stade où tout ce qui est chez vous est vraiment à vous. C'est vraiment imprégné de vous ou de votre famille, bien sûr, si vous êtes à 2, 3, 4, 5, mais que ce soit vraiment à vous. Ça c'est vraiment capital. Donc sinon, vous trouvez votre lieu. Une fois que vous avez trouvé votre lieu, qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne se précipite pas pour entrer et caser ses meubles de force et tout. Non, d'abord, une fois qu'on l'a trouvé, avant d'entrer vraiment, on purifie son lieu. Immensément important, à un point que personne ne peut imaginer. J'ai moi-même fait des recherches parfois sur des lieux et tout, mais c'est incroyable. Il n'y a pas que des fantômes qui habitent dans les maisons. Je ne vous raconte pas tout ce qu'on peut y trouver, quoi. Il y a vraiment des couches et des couches. Et plus c'est ancien, et plus c'est habité, et plus il faut purifier. Donc on explique plein de méthodes. La purification d'un lieu, c'est pas spécifique à nous. Hein. Il y a plein de gens qui parlent de ça. Donc ça, on n'en parlera pas ce soir. Mais bon, on vous donne des méthodes très précises pour le faire. Parce que c'est hyper important. C'est presque du suicide d'entrer dans un lieu qu'on ne connaît absolument pas, qu'on ne sait pas du tout qui habitait là, et puis de s'installer comme ça, pouf. C'est dangereux. Mais vraiment dangereux pour votre santé. Dans la plupart des cas, surtout dans les grandes villes et surtout dans un endroit qui a été habité déjà plein de fois. Il ne faut pas faire ça, il faut purifier l'endroit. Donc on explique ça aussi. Après, y a l'installation, comment on s'installe au mieux et puis comment on peut aussi ensuite, Céline en parlera, comment par rapport au fonctionnement de l'être humain, on peut habiter chaque pièce, du sol au plafond ou du plafond au sol. Donc, ça, c'est expliqué aussi. Et puis, bien sûr, on parle de la décoration, de la vraie, pas celle qui est tendance, pas celle que votre famille a dit c'est la meilleure, ou votre ami qui a dit ouais, ça c'est super, ça ce meuble-là, génial et tout. Non, la vraie déco qui doit vous refléter. Parce qu'en fait, surtout ne nous invitez jamais, parce que si on débarque chez vous, on voit votre déco, hein, on va dire, allez, en exagérant 15-20 minutes, on fait le tour de votre endroit, sauf si c'est un château, bien sûr, ça prendra plus de temps. Mais sinon, en 15-20 minutes, on fait le tour et on sait exactement qui vous êtes. Rien qu'en regardant votre déco, ça parle de vous, ça vous dit qui vous êtes. Alors bien sûr, ça ne va pas forcément vous dire qui vous êtes vraiment, ça va vous dire ce que vous avez mis dans votre maison. Donc c'est peut-être aïe aïe aïe, parce que peut-être ce qu'on va trouver dans votre maison en tant que décoration ne vous correspond pas du tout. Mais nous, on va dire vous êtes comme ci, comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Puis vous dire, ah mais non, ça ne me correspond pas du tout ce que vous dites. Ah, eh bien, justement, c'est parce que tout ce qui est chez vous, c'est pas chez vous. En fait, c'est pas à vous. Ça vous appartient pas. Ça vous ressemble pas. C'est uniquement pour ça. Vous voyez ? Donc, ne nous invitez pas chez vous. Bah, un truc rigolo, par exemple, là, c'était pas nous, c'était un ami qui avait ces connaissances-là aussi, qui était allé chez un couple. Et puis, bon, ils visitent la maison et tout pour faire une sorte de diagnostic comme ça. Et puis, après avoir visité le salon, il dit, mais il demande à chacun, donc c'est un couple, hein, donc un homme et une femme, c'est quoi qui est à toi dans le salon ? Et puis, à l'autre, c'est toi qui est à toi dans le salon ? Puis, au final, tout ce qui était dans le salon appartenait à la femme. Et il n'y avait rien qui appartenait à l'homme, sauf un minuscule coupe-papier dans un petit coin. Elle dit, vous ne trouvez pas que c'est un petit peu déséquilibré l'histoire là, qu'il y avait une énorme domination de la femme et que l'homme est tout petit, minuscule, et il ose à peine respirer là. Vous voyez le genre de choses qu'on peut voir là en 5 minutes quoi. Donc si on vit à deux, il faut que ce soit équilibré, il faut que chacun habite chaque pièce, sauf bien sûr si on a le loisir d'avoir chacun sa propre pièce. Donc là, dans sa propre pièce, il est normal qu'on puisse trouver que des éléments de décoration, de meubles, etc., qui soient en rapport avec la personne à qui appartient la pièce. Là, c'est normal. Mais quand on est un couple, normalement, les pièces où on doit vivre à deux, on doit trouver la trace des deux. Sinon, ça montre un déséquilibre, quoi. Donc, voilà un petit peu un genre d'exemple qui peut nous aider à comprendre ce qui se passe, quoi. Ensuite, bien sûr, il y a tout l'aspect sacré qui est très important, donc qui n'a rien à voir avec l'aspect religieux. Hein. On croit souvent que ce qui est sacré, c'est forcément religieux. En fait, pas du tout. Hein. Ce qui est sacré ou ce qui est spirituel n'a rien à voir avec la religion. Mais en revanche, ça, Céline vous en parlera, moi un petit peu aussi peut-être. C'est très important parce que une dimension sacrée donne de la valeur à votre habitat et donc l'élève vibratoirement. Donc, il ne faut pas s'en priver, quoi. C'est vraiment dommage. Donc, bien sûr, il y a tout l'aspect circulation d'énergie qui est très importante. Hein, donc, selon où vous habitez, si votre porte d'entrée, elle donne sur une rue. Par exemple, votre porte d'entrée, elle donne sur une toute petite rue dans rien du tout, il n'y a presque pas de passage. Bon, c'est tranquille, quoi. L'énergie n'est pas trop forte. Ou alors vous habitez sur une rue, votre porte donne juste et c'est une avenue. Puis c'est mission, et toute la journée. Là, c'est une énergie beaucoup, beaucoup, beaucoup trop forte, quoi. Et ça, c'est très mauvais pour la maison. Petits exemples. Donc la circulation de l'énergie, c'est aussi, bien sûr, très important dans la maison. Parfois, par exemple, vous avez un couloir, l'énergie a fait pssioum, elle passe à 400 à l'heure, là. Et puis d'autres fois, l'énergie arrive dans une pièce qui est hyper encombrée, un tas de gros meubles, un tas de bahuts, de fauteuils, de machins, et l'énergie elle arrive, puis là, jusque dans le canapé, puis là. Donc, quand vous êtes dans cette pièce-là, dans votre canapé, plus possible de vous tirer de là, parce que vous êtes inerte, épuisé, incapable de bouger une oreille. Et vous demandez pourquoi, parce que pourtant, il y a une heure avant, vous n'étiez pas si mal, puis là, vous n'en pouvez plus, quoi. Donc, bien sûr, si c'est chez vous aussi qu'il y a le fameux couloir, pion, donc après, vous levez péniblement de votre canapé, vous ouvrez la porte et vous mettez dans le couloir. Puis là, vous sentez un coup de vent, et là, ça va mieux. Mais bon, passer constamment du au port, c'est pas très bon. C'est mauvais pour les nerfs. Donc, vaut mieux trouver un équilibre dans votre maison. Vous voyez, faire circuler l'énergie correctement. Donc, ça, on n'en parlera pas parce qu'on estime que c'est quand même assez connu, surtout dans le Feng Shui, d'après ce que j'ai compris. Mais vous le trouvez très développé dans le livre aussi, bien sûr, parce que c'est vraiment très, très, très important. Ensuite, nous traitons de, des ondes de forme, c'est-à-dire que en fait, tout ce qui existe émet quelque chose, émet des ondes. Hein. On peut appeler ça des ondes, mais c'est plus subtil que ça. Donc ça, c'est connu, on en a des traces au moins jusqu'à l'ancienne Égypte. C'est-à-dire toutes les anciennes civilisations connaissaient ça, qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle forme, n'importe où, à n'importe quel endroit, etc. Donc il y a cette étude-là qui permet aussi parfois de bouger des meubles ou des lits et tout. Hein. Par exemple, dans une chambre, quelqu'un va se coucher chaque soir, il n'arrive jamais à dormir. Personne ne trouve la solution. Il y a des médecins, des spécialistes qui viennent voir. Personne ne trouve. Quelqu'un comme nous, ou quelqu'un du Feng Shui aussi, je pense, hein, entre dans la chambre, regarde, en même pas 2 ou 3 minutes, il a trouvé la solution. Pourquoi ? Ben c'est tout bête. Il y avait un meuble dans la chambre sur lequel il y avait une espèce d'épée, vous voyez, ou de sabre joliment posé, mais dont la pointe était tournée vers la tête du lit, là où la personne, hein, si vous, avec une droite, hein, si vous prolongiez la pointe de l'épée ou du sabre, ça aboutissait pile à la tête de la personne quand elle était allongée. Et ben voilà, on dit, la mettre ailleurs, votre épée, parce que là, changer le côté ou même l'enlever, la mettre ailleurs. La personne le fait, la nuit suivante, elle dort très bien, à cause des ondes de forme. Ben, j'ai pas de couteau, mais même de coups de papier. Mais si j'avais un coup de papier, je le mettais comme ça, la face à notre amie Elisabeth. Bon, ben, le soir, elle dirait ah, c'est bizarre, mais je trouve un truc qui me ferme le cœur, qui me gratouille, même peut-être simplement. Mais vous mettez un coup de papier sur votre bureau, là, devant vous, avec la pointe tournée vers vous, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, au bout de quelques temps, ah, c'est bizarre, qu'est-ce qui m'arrive et tout. Des ondes de forme, ça existe. Les Français sont des spécialistes par rapport à ça. Ils ont fait beaucoup de recherches. On est numéro 1 dans ce domaine. Cocorico, vive nous. Mais c'est vrai que c'est très important. Et c'est quelque chose qu'il y a énormément de choses comme ça par rapport à l'habitat qu'on a oublié, qu'on ne connaît plus dans notre société. Et qui étaient pourtant connus depuis des milliers d'années et qui étaient très, très respectés. Ou comme dans l'architecture aussi. On est nul de chez nul dans l'architecture aujourd'hui. Alors que dans les anciennes civilisations, ils connaissaient plein, plein de choses qu'on a oubliées. Et qui est dommage, parce qu'il y a plein de choses qui sont très mauvaises pour la santé. Donc vous trouverez plein, plein, plein de solutions pratiques par rapport à tout ça, des choses simples que vous pouvez mettre en pratique aussitôt en vérifiant comment c'est chez vous. Et vous pourrez déjà tout de suite certainement rectifier toutes sortes de choses. Voilà. Et puis le 10e point, c'était l'atmosphère des pièces, parce que chaque pièce a une certaine atmosphère, ou devrait avoir une certaine atmosphère. Et donc, selon ce qu'on y fait, c'est bien de faire en sorte que cette atmosphère soit dynamisée, amplifiée ou maximisée, pour que justement, on puisse y faire ce qu'on veut y faire le mieux possible. Dans la chambre, c'est sûr, on ne peut pas mettre ou laisser en sorte qu'il y ait une énergie hyper dynamique, parce que là, on ne dormira pas. Ou si vous voulez, ou si vous dormez trop facilement, par exemple, et que vous en avez marre, vous dites, non, j'aimerais bien me faire une petite insomnie, quand même, quoi, ça ne va pas, quoi. Ça fait 2726 nuits que j'ai dormi comme un loir, 10 heures par nuit, il faut arrêter le massacre. Eh bien, mettez un beau grand miroir face à votre lit. Et là, la nuit suivante, je vous garantis, vous n'allez pas dormir. Vous allez dormir un quart d'heure, vous réveillez. Vous endormez un quart d'heure, oh, c'est pas vrai et tout. Et là vous n'aurez plus un sommeil lourd, génial, super régénérant et tout. Vous ne dormirez plus. Simplement un grand miroir face à votre lit. Très mauvais, très très mauvais. Bon après, ça dépend des gens. Il y a des gens, vous les mettez n'importe où, hein, même au sommet d'une montagne où il y a 2 mètres et des falaises à pic, puis ils vont dormir comme des loirs. Hein, ça. Et puis d'autres, il suffit de 3 fois rien pour que c'est... et qu'ils n'arrivent pas à dormir. Donc après, il faut le moduler selon les gens. Mais c'est pour dire, c'est pourtant les miroirs, c'est très tendance et tout, on met ça partout, c'est génial et tout. Dans certains endroits, c'est génial d'avoir des miroirs parce que ça permet à l'énergie de rebondir. Hein, puis par exemple, si vous avez un couloir, comme je disais tout à l'heure, là, très long, l'énergie passe à fond, un miroir au milieu, peut-être, ça peut, hop, ça va l'attirer l'énergie, puis ça va la faire rebondir. Et s'il y a une pièce juste après, elle va rebondir, entrer dans la pièce, son élan sera un peu cassé, elle ne va pas entrer dans la pièce, parce que si on se la prend en pleine poire, si, mettons, vous êtes là, c'est votre bureau, et vous êtes à votre bureau, là, ça va décoiffer le pilote, quoi. Et donc, c'est pas forcément bon. Enfin, il y a plein de choses qui sont enseignées nulle part, qu'on connaît pas, et qui sont pas les choses qu'on a inventées. C'est connu depuis des milliers d'années, mais c'est oublié. Et c'est très dommage, parce qu'il y a plein, au moins, de petits maux, et même parfois des maladies graves, qui sont dues à ça. Parce qu'on est complètement ignorant de comment on doit vivre chez soi, et qu'on n'est jamais soi chez soi, qu'on est juste un anchois qui n'est pas soi, et donc du coup, on finit par être une passoire, et ça, c'est mauvais. Voilà. Bon, j'arrête mes bêtises. Donc, après cette introduction-présentation de divers éléments qui constituent en fait l'habitat créatif, on va, à partir de maintenant, entrer plus dans des choses précises. Et donc, je vais laisser la parole à Céline qui va justement nous présenter une méthode phare.
On peut le dire, oui.
C'est une méthode qu'on appelle le miroir. Miroir, mon beau miroir.
Alors oui, on va enclencher avec l'aspect pratique de tout ça et surtout l'aspect jeu. Vous aimez jouer ? Donc il y en a à peu près 5 qui ont répondu. Oui, ça va sûrement. D'accord. Il y a un jeu qui est excellent et qui est celui de l'évolution. Comme vous l'avez compris par les propos de Pierre, dans les méthodes qu'on propose de mettre en pratique, le but c'est toujours que l'être humain se révèle. Donc c'est toujours l'évolution de l'être humain et surtout qu'il vérifie par lui-même que ses potentiels sont infinis. Il peut rayonner ses valeurs, ses forces, sa beauté, sa puissance sur Terre de manière infinie. Ça, c'est le jeu de l'être humain sur Terre, si tant est qu'il ait envie de jouer avec son libre arbitre à se révéler. Donc le jeu de l'humain, c'est de se révéler sur Terre. On est d'accord ?
Oui.
Et sur Terre, on habite quelque part.
C'est mieux.
Est-ce que vous habitez quelque part ? Oui. C'est bien. Déjà, c'est un bon début. Donc, nous allons aborder une méthode marrante, parce que ce livre-là, ça paraît sérieux, mais en fait, c'est très marrant. Donc, on va aborder une méthode marrante qui, en plus, vous permet d'évoluer et que vous pouvez adapter à votre habitat à l'infini. C'est-à-dire, ça concerne celui ou celle qui a 18 ans aujourd'hui, et puis celui qui se croit vieux, mais qui va tout d'un coup rajeunir grâce à cette méthode. Elle n'est pas remboursée par la Sécurité sociale, mais elle pourrait. Je vous assure. On y va. Ça s'appelle le principe, le jeu du miroir. Ah, mais vous connaissez tous ça, puisque si vous êtes ici, c'est que vous avez envie d'évoluer. Vous connaissez tous un petit peu plus ou moins qu'est-ce que ça veut dire, le miroir. Déjà, peut-être vous avez entendu quelqu'un qui vous a dit « fais le miroir ». Non ? Ça c'est un signe, c'est quelque chose qui te parle. Hein, vous voyez, vous vivez une relation ou un événement, et puis vous vous dites, mon Dieu, pourquoi j'ai vécu ça ? Donc vous utilisez le support extérieur comme un principe de révélation de quelque chose que vous portez en vous. Vous avez au moins déjà fait ça une demi-fois. Hein, il vous arrive quelque chose et vous vous demandez, pourquoi ça m'arrive ? Non ?
Peut-être pas comme ça, mais genre...
Oui, c'est ça. Alors oui, ça souligne quelque chose que j'ai oublié de dire. C'est que dans le principe de l'évolution et de l'humain que nous voulons mettre en valeur, et donc là, ça vous concerne, il s'agit d'un principe de responsabilité. Mais oui, bien sûr, hein, ça s'adresse à des gens qui veulent être responsables dans leur vie. C'est-à-dire, c'est un humain qui se tient debout et qui n'est pas puéril face à ce qui lui arrive. voyez ? Et il est responsable, il se dit j'assume ce qui m'arrive, entre guillemets, il n'y a pas de hasard. Ça m'arrive à moi, ce n'est pas arrivé à mon voisin. Bon, au bout d'un certain temps, on avale la pilule, on se dit ça m'arrive à moi. Donc, c'est à moi que ça arrive.
Donc, il faut que je fasse quelque chose.
Donc, voilà, donc c'est
pour
moi.
Pas
en
mourir
fait.
Idiot.
Voilà, donc ça va faire une petite dynamique à l'intérieur. Et la clé majeure dans toutes les méthodes qu'on vous propose et qui permettent cette responsabilité et cette évolution, c'est le questionnement. Parce que si face à un événement, vous vous dites, vous restez passif, vous n'êtes pas humain, on peut dire. Vous êtes enfant ou vous vous laissez aller par la vague. Il n'y arrivera rien de positif ou d'évolutif dans votre vie si vous vous laissez porter par le courant. Un humain, il est debout, il est dynamique, il se pose des questions, il est en quête. Êtes-vous en quête ? Vous êtes forcément en quête puisque le titre de la conférence, c'est Habitat créatif. Donc, vous avez envie de créer, vous avez envie de révéler votre créativité, au moins. Hein, on peut au moins se comprendre sur ces termes. Eh bien, il s'agit de dynamiser l'individu, celui qui vit à l'intérieur. Hein, l'esprit qui est à l'intérieur, il a envie de rayonner, de se révéler. Et le questionnement, la dynamique du questionnement face à ce qui nous arrive dans notre vie, le principe du miroir, est excellent pour grandir en tant qu'individu sur Terre. Donc, ce principe du miroir, il vaut pour chacun. Si on veut évoluer, il est extrêmement efficient. Donc, c'est-à-dire, on ramène à soi ce qui se passe et on arrête d'accuser la vie, Dieu ou les autres de nous avoir fait cette vie si médiocre. C'est pas de bol. On a la vie la plus médiocre parmi toute l'humanité. C'est pas... Tandis que quand on prend le principe du miroir, ah, ça m'arrive à moi, génial, parce que je vais pouvoir développer telle chose ou comprendre telle chose sur moi, avancer dans ma vie d'humain. Donc ça vaut pour des relations, ça vaut pour des événements. Et nous, on l'a adapté à l'habitat. On a adapté ça à l'habitat. Considérant que y a quand même une petite connaissance à mettre au départ pour que la méthode fonctionne bien. Donc il y a l'état d'esprit, ça vous l'avez compris. Mais il y a quand même une certaine sagesse qui permet la lecture juste du miroir dans l'habitat. C'est de savoir que on est tous des individus dans un corps de chair. Ça, vous êtes d'accord ? Tu as un corps de chair ?
Ben oui.
Voilà. Mais on sait qu'on a un corps de chair, mais on ne sait pas forcément qu'on est un individu à l'intérieur. Voyez ? Des fois, on s'identifie au corps de chair, donc c'est pour ça que je précise les deux choses. Hein ? Nous sommes un individu unique, un esprit, dans un corps de chair. Hein ? Et au fur et à mesure de notre vie, on le vérifie. Mais pour notre histoire de miroir, il est bon de savoir que cet esprit, donc l'individu que l'on est, il a des outils d'expression. C'est-à-dire des outils ou des grands royaumes de révélation de lui qui lui sont permis de par sa constitution et qui permettent que justement il arrive dans sa vie à rayonner un maximum. Donc ça, c'est juste magnifique. Je vous cite les différents royaumes, vous allez reconnaître. L'individu, il dispose d'une pensée. Faites voir. Ben non, ça se voit pas parce que c'est à l'intérieur en fait. Mais c'est, ouais, ici, la boule, hein et ce qu'il y a au-dessus. Hein. Donc, un royaume de pensée, c'est tout ce qui se trame à l'intérieur, tout ce que je pense, tout ce qui concerne mon identité, toute la dynamique que j'ai au niveau de mon questionnement, de ma vision de la vie, de l'humain, mes aspirations, ouais, tout ce qui est intime, intérieur. Mon envie de vérité, ma quête de sagesse, ce genre de choses. Donc ça, c'est un royaume dans lequel je peux exprimer ma pensée. Ensuite, on a ce qu'on appelle tout le domaine du sentiment. Donc on passe, hein, ça ne vous intéresse pas ça, hein, le sentiment. Hein, non, c'est facile. Hein. Non, il rigole pas, c'est bon. c'est tout ce qui concerne les relations. Ça vous parle mieux comme ça ? Oui. Donc, tout le domaine relationnel, et ça englobe aussi les émotions, mes sensations, tout ce que j'éprouve à l'intérieur, qui vont du bas au plus pur, selon qui on est. Les émotions, les sensations, et puis les désirs aussi. Hein, toute cette zone sentimentale et qui est aussi reliée à la parole, bien sûr, puisque dans ce royaume du sentiment, c'est un royaume de l'échange. C'est-à-dire, j'échange avec l'autre, et l'autre me fait passer qui il est, et moi aussi, on échange comme cela de l'un à l'autre, c'est le donner et le recevoir, enfin, dans l'idéal. Donc, il se passe des choses dans le donner et le recevoir, et dans le recevoir et dans le pas donner aussi. Donc ça arrive parfois, on garde pour soi. Voilà. Et des fois, on est face à quelqu'un et puis en fait, on efface quelqu'un. Hein. Donc voilà, donc il y a plein de choses qui se passent au niveau relationnel, ça c'est la zone sentiment. Et puis après, on a une troisième zone, une troisième royaume, tout ça c'est une unité bien sûr, hein, que l'on appelle le royaume de la volonté. On a pensée, sentiment et volonté. La volonté, bah, c'est tout le domaine de l'action. La créativité aussi, la manifestation de ce que je porte en moi, ma façon d'agir, de me comporter, d'agir ou réagir d'ailleurs dans la vie. Donc tout ce qui est de la mise en mouvement, la mise en impulsion, en initiative de qui je suis. Donc c'est vraiment typiquement relié aux membres et à l'action, tout le domaine de l'activité. Donc comme tous ces royaumes sont en fait un, mais ils nous permettent de nous révéler dans notre quête de vérité, notre quête de beauté ou d'authenticité et notre quête de créativité. Ça va pour ça ? Ça vous paraît clair ? C'est important, c'est des bases. Parce qu'on part de là pour expliquer l'habitat. Quel rapport ? Mais quel rapport avec mon corps ?
L'habitat, ça ne pense pas. Ça n'a pas de sentiment et ça n'agit pas. Je ne comprends pas. Comment se peut-ce ?
D'accord. Donc, il y a une connexion que l'on peut faire entre ces parties-là pour se révéler et puis notre habitat. Comment fait-on cela ? Si on part du principe, voilà, ma pensée, et ben dans la maison, ça va se retrouver les plafonds. Vous avez tous un plafond. Enfin, vous avez le plancher du voisin du dessus, mais c'est quand même un plafond. Tout ce qui est plafond ou lumière chez vous, tout ce qui est lié à la lumière, puisque la pensée, c'est quand même ce qui est censé éclairer, hein, ou permettre du discernement, mettre de la lumière. Donc, chez vous, tout, connexion, ma pensée, c'est mon plafond et mes lumières, qu'elles soient pendues sur le mur ou par terre. Vous voyez les issues de secours, là. Donc, donc c'est ça pour le miroir, on va y revenir après. Pour l'instant, je vous donne les bases et on va faire des exemples. Parce que là, ça commence à, vous commencez à avoir votre habitat, là. Vous commencez à, à y être, là, ensemble. Je vois déjà plein de plafonds qui se dessinent, c'est charmant. Mince, je vais le repeindre en plus. Donc, on a notre plafond, notre pensée. Il va nous en dire beaucoup sur l'état de notre pensée, mais aussi surtout comment on peut faire évoluer cela. On va voir. Le sentiment, qu'est-ce que c'est ? Alors, en miroir, dans mon habitat, sentiment, mes relations, communication.
Les tableaux, les murs.
Les murs. Ah, les murs, mince, mes murs.
Eh bien, ne dit-on pas les murmures ?
Oui, les murmures, et ils ont des oreilles aussi. Donc, ils vont entendre, ils vont vous aider à voir, à faire l'écho de votre sentiment. Votre domaine relationnel, votre domaine de la communication. Donc ça inclut les fenêtres. Et ça inclut tout ce qui est au niveau des murs, c'est-à-dire même des objets que vous auriez posés sur un meuble, mais qui, comme on le regarde, on a l'impression qu'il est accroché sur le mur. Voilà, donc ça inclut une forme de décoration aussi. Hein, donc toutes les zones, toute la zone comme ça des murs. C'est bon, vous les voyez vos murs ? On va y revenir, c'est là qu'on va rigoler. Alors, donc et après, la volonté, qu'est-ce que c'est ? Mon plancher. Vous avez tous un plancher, comme vous avez tous une volonté. Hein, mon plancher, ma moquette, les trous cachés, bien sûr, le tapis dessus. Donc, il y a le sol et tout ce qui monte du sol. Bien sûr, tout ce qui est...
Tu veux dire les odeurs ?
Non, c'est un exemple, ça. Mais les meubles, vos meubles, Vos meubles font partie de votre miroir pour vous dire où vous en êtes ou quelle est la nature de votre domaine d'action, de manifestation, de créativité. Donc vos meubles, ou si vous n'en avez pas, il n'y en a pas. Hein. Donc vos meubles, tout ce qui monte du sol, ou par exemple une cheminée également, fait partie de votre volonté. Voilà. Donc on a comme ça y est, notre panorama. Ta-ta-ta, vous êtes chez vous là ? On va prendre des exemples croustillants. Parce que et on est là pour évoluer, mais c'est un jeu. Au départ, on est chez soi avec la maison qui est un objet extérieur à soi. On rentre, c'est un truc, c'est un machin avec quatre murs, c'est super pratique, je peux mettre un matelas, ma télé, ma table, mes chaises, et puis je viens là, et puis c'est efficace, le loyer est pas cher, et voilà, et je suis dedans. C'est quelque chose d'extérieur à soi, on ne fait pas la corrélation. On n'est pas en relation avec son habitat, on n'est pas du tout en train de penser « Ah bah oui, il va se passer quelque chose entre moi et lui là ». Pas du tout. Donc nous là, en plaçant l'être humain au centre, l'envie d'évoluer et ce principe du miroir, on commence à entrer dans une dynamique tout à fait différente qui va vous changer votre point de vue sur là où vous habitez, mais aussi comment vous pouvez de manière hyper simple grandir en conscience, très simplement. Mais ça nécessite que vous aimiez vous poser des questions et puis vous transformer. Mais ça, c'est sûr, hein, oui. Mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, on va commencer par votre pensée. Super, votre pensée.
Hein ouais, bah, oui,
tout à fait. Bah, ils répondent très timidement juste à leurs voisins en se mouchant tranquillement. Mais, parce qu'ils se disent, mince, mon plafond. Non. Parce qu'au départ... On n'est pas tout à fait conscient de ce qu'on porte en soi. Mais c'est génial parce que l'habitat va devenir l'écho. Hein, il va m'aider. Le miroir, c'est ça, c'est un révélateur. Donc autant jouer avec lui, hein, puisque vous y êtes tout le temps chez vous, souvent chez vous. Donc mon plafond va me raconter ma pensée. Ben, déjà, mon plafond, il est bas ou il est haut ? Bon, il se peut que j'ai plusieurs pièces, donc selon la fonction des pièces, ça va me dire aussi un petit peu quelle pensée j'ai à ce moment-là, ou selon tel sujet, tel thème. Mais globalement, hein, en général, les plafonds sont à peu près au même niveau de pièce en pièce. Donc vous pouvez vérifier, c'est vrai que s'il y a une énorme différence entre quelqu'un qui a 3,20 m de plafond et quelqu'un qui a un faux plafond.
Les faux plafonds,
oui, c'est pas bon. Surtout si vous êtes vendeur de faux plafonds, arrêtez tout de suite. Hein.
Ah oui, empêche. Vous rendez pas des services aux gens. Là.
C'est pas bon du tout. Hein. Les faux plafonds, c'est une erreur. Voilà. Donc si vous allez emménager, puis vous voyez que mais c'est pour la protection, ça vous fait des économies de chauffage. Oui, mais bon, en fait, si j'arrêtais de penser juste aux économies de mon portefeuille, mais plutôt à l'envie, à l'aspiration d'élever mes pensées, d'avoir une vision de la vie, avoir envie de quêter, d'être grand, voyez, de voir un petit peu l'infini au-devant de moi, je vire ces faux plafonds. Hein.
Et puis, de respirer mieux, quand même.
Oui, c'est
parce
ça.
Parce que ça diminue le volume aussi.
Ça diminue le volume.
C'est pas bon.
Et puis, ce sont souvent des matériaux, de toute façon, concrètement, assez nocifs pour l'aspect respiratoire. Mais vous pouvez déjà jauger ça. Hein. Donc, si ça vous tasse, ou si ça vous... Quand je rentre, waouh, ça vous monte, ça vous fait un écho. Donc, il faut juste être réaliste dans le décodage des miroirs. D'accord, hein. Si vous avez un faux plafond, vous ne racontez pas que c'est évolutif, vous voyez, ou... Il y a des trucs, ça ne va pas, tout simplement. Donc, je vais changer ça. Mais je le change ou je module d'abord en me questionnant, en me demandant mais à quoi ça correspond réellement dans la vie de ma pensée. Est-ce que c'est une peur de voir plus grand ? Est-ce que c'est quelque chose qui me dépasserait ? Je préfère rester dans le connu, dans des choses un peu, vous voyez, calfeutrées comme ça ou j'aurais peur, moi, de perdre conscience si jamais j'avais un grand plafond, c'est-à-dire si il y avait une grande, grande zone. Je ne finis pas ma phrase, je te laisse finir.
Ah bon ? Oui, tout simplement, si on a un faux plafond, donc on a un plafond qui n'est pas très haut, ça veut dire que on refuse ou on a peur de prendre de la hauteur, hein, face à des situations de la vie. prendre de la hauteur est toujours le meilleur moyen de trouver des solutions. Justement, dans le domaine de la pensée, nous, on enseigne ça, que face à n'importe quel problème dans la vie, si vous êtes capable de prendre de la hauteur avec votre pensée, de vous élever, de vous détacher de la situation problématique face à laquelle vous êtes, eh ben, ça va vous permettre de trouver des solutions. Si chez vous, c'est bas de plafond, notamment à cause d'un faux plafond, ça veut dire que vous refusez ça. Donc après, pourquoi vous refusez de trouver des solutions ou quoi ? Est-ce que c'est parce que vous vous sentez incapable ? Est-ce que c'est parce que vous voulez chercher à tout prix que quelqu'un d'autre les trouve à votre place ? Enfin, il y a plein de possibilités après, mais ça montre quelque chose que vous refusez de vous donner, quoi, ou vous refusez de développer. Donc c'est dommage, quoi.
Oui, c'est ça. Puis en même temps, mais tout est possible. Donc à la fois, bah, pour transformer des choses dont vous prenez conscience en vous, il y a quelque chose que vous pouvez transformer pour grandir au niveau de, ou purifier ou amplifier le domaine d'une pensée juste, plus sage, plus lumineuse. Donc bah, voilà, vous en êtes là, vous le constatez et puis vous changez des choses et ça peut après advenir à des transformations vraiment concrètes et matérielles dans votre habitat. Donc on parlait aussi bien sûr des lumières. Parce que bah, la pensée, elle doit être claire. Hein? Mes lumières, jamais fait gaffe, moi j'ai pris celle qui était là, je sais pas, il y avait une ampoule au plafond, oh, quoi, c'est... Je ne m'interroge pas spécialement sur les lumières, bah, interrogez-vous sur vos lumières, dans le sens où, ah voilà, ça m'intéresserait de voir l'écho et l'état de ma pensée au travers des lumières qui existent chez moi. Vous avez des lumières, comme ici, suspendues. Donc ça, c'est typiquement ce que je vais chercher, bah, comme Pierre vous le disait, une solution à une source plus grande que moi. Je cherche vraiment, je questionne, donc je suis capable de faire descendre la lumière qui est comme au-dessus de moi pour éclairer la globalité d'une situation, par exemple. Je n'ai pas peur de faire appel à quelque chose qui me dépasse. Hein. Ou si, bah, si j'en ai pas, pourquoi je ne cherche pas à me questionner plus haut ? Vous pouvez visiter votre appartement et voir si c'est plutôt une dominante de lumière au plafond ou s'il n'y en a absolument pas. Dans ce cas, vous vous demandez pourquoi, tout simplement. Ou alors, si vous avez une dominante de lumière qui sont sur ce qu'on appelle des appliques, c'est-à-dire des lumières posées sur... Et les murs, c'est la relation. Ah, j'adore mettre la lumière dans mes relations. Mais je ne sais pas pourquoi, toutes les ampoules, elles pètent. Il y a un truc avec ces appliques, là, il doit y avoir un faux contact quelque part. Donc, vous regardez, et donc, ça, c'est toujours dans le domaine de la pensée, mais c'est une pensée qui s'applique au domaine de la relation et de la communication. Donc, selon si vous en avez ou pas, et selon comment elle se passe. Comment ça se passe avec ces ampoules-là, et puis, est-ce que vous vous en servez ? Il y a des fois, on a des ampoules ou des lumières, mais on ne s'en sert pas. Donc sachez qu'à chaque fois que vous voulez vous questionner sur ce domaine-là, domaine relationnel communication, vous allez pouvoir voir des échos, des miroirs en lien avec les lumières sur vos murs, par exemple. Et vous avez des lampes... Hein ? Eh oui, posées au sol.
Des lampadaires.
Bravo. Donc... Donc des lampadaires, c'est-à-dire dont le pied est au sol, donc il émerge du sol. Donc ça, c'est toujours dans le domaine de la pensée, mais ça représente forcément une volonté de mettre la lumière jusque dans l'acte, dans mes manifestations créatrices, dans le domaine de mes initiatives, de mon rapport à la matière. En avez-vous ? N'en avez-vous pas ? Les utilisez-vous ou pas ? Fonctionne-t-elle ? Éclaire-t-elle ? Voilà. Donc vous regardez un petit peu tout ça, vous faites un peu le tour de l'appartement. Voilà. À moins que vous éclairiez à la bougie, c'est excellent, bravo, bougie, voilà, donc vous trimballez vos cierges, etc. Ça, c'est plus mobile, c'est un peu plus antique, mais ça peut, hein, donc selon où vous aimez les placer, vos bougies, bah, pourquoi, à tel niveau, vous pouvez vous amuser avec les sources de lumière, c'est-à-dire quel est l'état de ma pensée actuellement quand je regarde mon habitat. Ça va ? Et donc forcément, ça, donc là, je vous parle de commencer actuellement. Tout à l'heure, on verra quelques petites anecdotes dans ce qui arrive dans une maison. Après, on va au niveau du sentiment. Mes murs. Ben, y avait la tapisserie comme ça au départ. J'ai pas pensé à la changer. C'est vrai qu'elle est un peu vieillotte. Bon, j'ai mis des nouveaux tableaux. Ça cache un peu. Là, j'ai mis un paravent. Comme ça, on voit pas le trou qui était là. Donc, voilà. Vous avez un état au départ de vos murs. Il faut bien vous dire, à partir du moment où j'ai les clés de mon habitat, tout ce qu'il y a dans mon habitat, c'est moi. C'est à moi. C'est pas la faute du mec d'avant. Ça va pour vous, ça ? C'est dur à avaler, je sais bien, pour certains, hein, mais on se dit, pourquoi le propriétaire d'avant a mis cette fichue de tapisserie ? Pourquoi ? Donc, non, on a dit, non, je suis un être humain et j'essaie de me questionner et d'évoluer. Donc forcément, quand j'ai les clés, cet habitat, il est à moi. Donc ce qui arrive dans cet habitat et qui se révèle à moi par le jeu du miroir, ce sont des choses que j'ai à comprendre, tout simplement. Et c'est comme ça que je vais évoluer, parce que ça m'arrive à moi. Donc au niveau des murs, il y a l'état des murs. Donc au niveau de la tapisserie, ça c'est simple. Mais il y a aussi des choses un petit peu plus ennuyeuses, comme de l'eau, hein, des murs humides. Donc, c'est quoi déjà les murs ? Mais les relations. Et donc, imaginez des murs humides. Bon, encore humides, ça va, mais vous voyez, quand il commence à y avoir des trucs qui poussent. Ah, mais bien sûr, j'adore la nature, les champignons, j'adore ça. C'est un super miroir, en fait. Ça me montre mon lien à la nature qui vient jusque dans mon appartement. Donc là, on arrête les lunettes roses, en fait. Ça craint, quoi. Ça veut dire que là, il y a de la pourriture, moisissure. Et c'est votre domaine relationnel qui est touché. Donc là, en l'occurrence, c'est beaucoup émotif, quoi. Soit je refoule des tas de choses et puis ça commence à faire des petits, là. Ça commence à sortir et ça va bientôt péter. Hein, soit, donc c'est tous les motifs, soit ça montre que j'en fais trop et donc le domaine de mes relations, de mes communications est noyé. Vous voyez, c'est inondé. Voyez, donc c'est à vous de... Ce sont des exemples de décodage, mais c'est à vous de voir selon ce qui se passe dans vos murs et l'état dans lequel ils sont là maintenant. Peut-être qu'en fait, j'ai un problème là actuellement là, avec machin. Donc c'est sûr que c'est mouillé, c'est un peu humide entre nous. Et puis ça se passe pas très bien quand je le vois. À chaque fois, je suis dans tous mes états et forcément, les murs me le montrent. Il ne peut pas y avoir une non-correspondance, c'est totalement impossible. Par contre, après, vous pouvez faire évoluer ce que vous voyez, c'est-à-dire à mesure...
Parfois, c'est franchement conseillé.
Oui, c'est vrai. Donc, vous avez des choses, après, des supports extérieurs qui vont vous permettre de régler les choses. Hein. Ça peut prendre plus ou moins de temps. Mais forcément, il y a l'émergence d'une prise de conscience, une révélation du miroir habitat qui vous dit, regarde, il y a quelque chose à faire au niveau relationnel. Et vous allez vous plonger dans votre histoire. Hein, vous allez aller en quête, vous allez essayer de comprendre mais pourquoi et tout. Vous allez entrer vraiment dans un questionnement évolutif où là, vous allez grandir. Non pas vous plaindre de l'état extérieur, bien que bon, c'est sûr, c'est pas agréable, mais vous dire qu'est-ce qu'il me dit en moi, hein. Et moi, j'ai envie que ce soit beau, j'ai envie que mes murs reflètent la beauté que je porte en moi, reflètent ce que j'ai de plus doux, de plus valeureux, de plus cœur, hein, à montrer à l'autre. Hein, les murs, c'est bien ça. Les murs, c'est ce que je montre de moi aux autres, ce que les autres accueillent de moi, ce qu'ils reçoivent de moi. Donc, si c'est toujours humide, ou si c'est des tapisseries de l'an 1940, ou si les murs sont fissurés, vous allez vous dire, allez, je vais visiter ça, et vous vous amusez à décrypter ce que les murs vous disent sur vous, sur vos relations. Et ça, c'est absolument génial, parce qu'il n'y a personne d'autre que vous qui va le décrypter aussi bien. Et vous évoluez très très vite, juste en étant chez vous. Il y a aussi dans les murs les fenêtres. Ta-ta-tam. Allez, on visite ces fenêtres. Est-ce que j'en ai ? Je n'en ai pas dans la chambre en fait. Alors ma fenêtre. c'est incroyable. Alors les fenêtres, c'est simple. Hein. On est toujours dans le domaine de la relation. Et c'est quoi ? C'est fait pour être ouvert. Hein. On ouvre, on ferme. Mais c'est vrai que c'est bien quand on peut les ouvrir. C'est l'ouverture à l'autre, l'ouverture au monde. Hein, vous voyez ? Normalement, on est content. C'est le cœur qui parle. Hein ? Ah, mince alors, il y a des barreaux, dis donc. le propriétaire, il a mis des barreaux aux fenêtres.
Ah, mais serais-je légèrement insécurisé? J'ai peur du monde extérieur, c'est affreux. Je ne veux pas voir ça.
Vous le prenez en l'état. Hein, donc, vous vous dites, bah, voilà, donc c'est sûr, c'est comme ça. Moi, je ne vais pas, pas scier les barreaux, ce n'est pas chez moi et tout. Mais quand même, il y a au moins une petite prise de conscience qui peut se venir et qui peut vous enseigner quelque chose sur... alors là, donc est-ce que je me protège des autres ou est-ce que voilà de qui j'ai peur? Est-ce que j'ai peur de révéler qui je suis à l'autre? Voyez, est-ce que je préfère être cloîtrée, puis je suis fermée, je reste chez moi, je m'isole, ou est-ce que je rejette les autres? Il y a une dynamique à avoir pour expliquer ces fichus barreaux, parce que en réalité, normalement, une fenêtre, c'est fait pour amener de la lumière dans les relations, voyez, ventiler, l'échange se passe bien. Pour montrer qu'on est ouvert. Si vous ouvrez votre fenêtre et que vous tapez un barreau, il y a un petit problème. Voilà. Je vous montre les problèmes parce que ça fait rigoler. Hein. Mais en même temps, un problème n'est pas une fatalité. C'est quelque chose qui va se régler et qui fera que soit je change la chose aussi concrètement, mais avec la conscience de ce que je suis en train de transformer en moi, ou alors ça me permettra que quand je déménagerai, très vite d'ailleurs, j'aurai plus de barreaux aux fenêtres. Mais ça voudra dire que j'aurai changé.
Oui, et sinon on peut aussi essayer de s'évader en sciant les barreaux. C'est non. Toujours possible.
Oui, c'est possible. Mais c'est sûr, quand vous avez des miroirs frappants, c'est bien de ne pas les fuir, parce que de toute façon, ça se reproduira. C'est comme, vous voyez, c'est quelque chose qui vous dit, grandis au travers de moi, je te montre quelque chose, joue avec ça, on fait de l'humour, on s'amuse, je suis un barreau. Je suis un barreau à ta fenêtre, va voir à l'intérieur, va voir tes relations, amuse-toi avec moi. Et puis après, on évolue, on rebondit, et puis on avance grâce à ces miroirs. Donc les fenêtres, il y a aussi des fenêtres qui fuient, il y a des fenêtres qui donnent sur un mur. Ça, c'est sympa aussi, la fenêtre qui donne sur le mur. La fenêtre qui donne sur le mur d'en face. Ou vous avez la fenêtre qui donne sur un cimetière. Ça, c'est sympa aussi, la vision des relations, l'ouverture à la vie, tout ça. Donc, vous avez des trucs très drôles. Et amusez-vous avec ça, parce que vous êtes dans un lieu de vie pour l'instant, où vous êtes en train d'en chercher un. Comme ça, vous aurez la conscience de ce que ça peut vouloir dire.
Bah oui, parce qu'on peut aussi voir tout ça avant d'entrer. C'est-à-dire, ah oui, il est fabuleux, votre appartement. Ah ouais, votre maison, ouais, c'est absolument génial. Mais là, non, très peu pour moi, merci beaucoup. Vu sur le cimetière, des fenêtres coincées, d'autres avec des barreaux et tout. Mais à l'intérieur, ah ouais, c'est le top, quoi. Le truc, vraiment, tout le monde serait à genoux devant. Mais seulement, personne ne va voir ce qui est le plus important. Donc, fuyez.
Oui, tout ça, ce sont des parts de vous qui veulent s'exprimer. Vous êtes un être triple, hein, on a vu les trois parties, mais en même temps unique, qui doit révéler son unicité. On ne peut pas échapper à la pensée, au sentiment ou à la volonté. C'est un ensemble. Donc, l'habitat va nous montrer la totalité et on le visite à son rythme. On le visite avec le jeu qu'on veut, avec sa conscience, son questionnement. C'est vraiment libre à chacun. Mais c'est vrai que l'habitat nous montre tout. Voilà. Donc, autant s'amuser. Et aussi, il y a un truc sympa, c'est les objets, hein, au niveau des murs. Parce que vous avez des objets qui sont placés sur les murs ou à hauteur, voyez, à hauteur, là, à l'horizontale, sur des meubles. À moins que ce soit hyper vierge chez vous, vous avez au moins un petit truc sur votre mur. Voilà. Donc, visitez votre mur parce que le mur est censé révéler l'authenticité relationnelle, la beauté de votre cœur que vous offrez à votre prochain. Donc, ce qu'il y a sur vos murs, c'est ce qui est siège dans votre cœur et que vous et que vous offrez à l'autre. Voilà. Normalement, c'est quelque chose qui est beau, qui nourrit le cœur de l'autre aussi et qui vous appartient. C'est-à-dire quelque chose qui reflète quelque chose de vrai en vous, quelque chose de beau en vous. Et il y a comme ça des gens, ils ont des murs de photos. Des murs de photos. Alors, il y a soit des murs de photos de tous les ancêtres, dans le cadre en bois, il y avait la moustache du père. Donc voilà, donc il y a tous les ancêtres, ou alors il y a moi. Alors regarde là, tu vois, là c'était, j'étais au ski là, tu vois. Puis là c'était quand j'étais avec le machin. Là. Là c'est moi dans le jardin en train de planter des fleurs. Là, c'est moi, 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 moi et moi. Et on n'oublie pas, c'est les murs. Mais les murs, c'est l'autre et moi, c'est la relation. Donc selon que vous avez, ce que vous visitez, là où je, voilà, je vous vois en train de faire le tour des 360 degrés de votre appartement, voilà. Selon ce qui est à niveau, vous voyez ce à quoi vous êtes accroché et qui vous empêche ou qui favorise la relation à l'autre. Voilà. Donc après, c'est à vous de prendre vos dispositions. C'est sûr que chacun est face à ses, comment dire, ses habitudes, ses comportements. Mais forcément, ça lui parle. Donc la décoration, ou les objets, ou ce qui est sur le mur, eh bien, ça vous parle également. Autant que l'état du mur lui-même et des fenêtres. Ça va ? C'est très révélateur. Et une autre chose, ce sont les miroirs. Y a-t-il un miroir chez vous ? Y en a-t-il plusieurs ? Y en a-t-il beaucoup ? Vous regardez-vous dedans ou le fuyez-vous ? Est-il seulement dans la salle de bain ? Les miroirs, ça c'est typiquement relationnel, bien sûr, puisque c'est l'écho, c'est la résonance, c'est ce que y est reflété par l'autre ou moi à l'autre. Donc selon le rapport que vous avez au miroir, c'est super révélateur de votre royaume sentimental. Je m'aime beaucoup, je me regarde souvent dans les miroirs.
Tu veux te faire des amis là ou quoi ?
Bah ouais. Donc il y a ceux qui adorent le miroir, et puis il y a ceux qui le fuient. Voilà. Mais vous avez forcément au moins un miroir, et le rapport au miroir va vous aiguiller sur le domaine relationnel également, et comment vous êtes à l'aise avec l'image que vous donnez à l'autre et celle que l'autre vous reflète, et vice-versa comme ça en permanence. Donc le miroir est un objet fructueux à expérimenter. Donc pas seulement en tant qu'objet, mais en tant qu'est-ce que ça me fait au niveau de ma maison, que de me dire, ah oui, est-ce que je suis bien dans l'image ou dans la beauté que je reflète aux autres ou pas, quand je me regarde, est-ce que je vois ça ? Voilà. Donc c'est un petit truc délicat, bon, on va passer à autre chose. Hein, voilà. Et le plancher, mon plancher. Non, on ne fait pas le plancher ? Bon, bah, vous regarderez votre plancher de la même manière. Parce que l'heure tourne, voyez-vous. Voilà, donc c'est juste pour vous donner le principe que voilà, vous avez ce phénomène, ce jeu, et que ça fait partie des méthodes évolutives marrantes quoi, que vous pouvez retrouver dans le livre et pratiquer tout simplement. Voilà. Et ça vous fait grandir en conscience. Donc tu avais d'autres méthodes que tu voulais aborder ? Qui sont particulières.
Oh, certainement.
L'habitat créatif.
Donc, après avoir un peu exploré votre maison, je vais vous ramener un peu à des choses plus basiques. Donc, pour comprendre certaines choses concernant l'architecture et aussi le lien entre la maison et le corps physique. Donc, je vais vous parler de choses qui sont connues depuis des milliers d'années, au moins jusqu'à l'ancienne Égypte, mais qui ont été complètement oubliés par nos architectes modernes, et ce qui est bien dommage. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que l'architecture, donc dans une très 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 lointaine antiquité, faisait partie d'un ensemble de qu'on appelait les sept arts libéraux, qui ont été enseignés jusqu'au Moyen-Âge dans l'école de Chartres en France, mais qui étaient connus aussi des Grecs et puis des Égyptiens. À l'origine, c'est les Égyptiens, au moins. Après, ça se perd dans la nuit des temps, comme on dit, c'était peut-être même plus ancien. Mais au moins, c'était un ensemble d'enseignements qui étaient donnés, artistico-scientifiques, qui avaient pour but d'aider l'être humain qui faisait ses recherches, qui suivait cet enseignement, qui était un enseignement spirituel, initiatique. En le suivant, ça faisait aussi son évolution. Et pour ce qui est de l'architecture, qui est le seul aspect que je vais parler un peu, puisque les autres ne sont pas directement reliés à la maison, pour ce qui est de l'architecture, donc, ça aidait l'individu à comprendre des choses, bien sûr, par rapport à son habitat, des choses essentielles qu'on a perdues aujourd'hui. Donc l'architecture, il faut savoir, donc, je vais parler d'architecture sacrée pour pas la confondre avec l'architecture d'aujourd'hui, puisque ça n'a plus rien à voir, parce que c'est perdu. Mais bon, pas tant que ça, puisque nous, on le connaît, et puis il y a d'autres gens qui le connaissent aussi. Donc, l'architecture sacrée de l'Antiquité, il était connu qu'elle était reliée au futur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces architectes du passé créaient un habitat, ou même, par exemple, un temple, ou même jusqu'au Moyen-Âge dans les églises gothiques, par exemple, il y avait des connaissances très précises qui étaient connues et qui savaient que c'était relié à l'aspect futur. Donc, bien sûr, quand on dit, par exemple, ben, vous allez entrer dans une maison et que cette maison représente votre futur, ça peut vous paraître peut-être bizarre. Et pourtant, il y a un moyen très simple de le comprendre. Vous cherchez un lieu pour y habiter, et puis vous le trouvez. Et donc, vous allez y entrer. Donc, bien sûr, avant, vous allez le purifier, parce que maintenant, vous savez que vous purifiez avant. Et voilà, vous entrez, vraiment, c'est votre premier jour. Bien sûr, vous n'en savez rien, mais vous allez peut-être rester là 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Si vous étiez clairvoyant et que vous pouviez projeter votre conscience dans le futur, vous sauriez, par exemple, que vous allez rester là 7 ans. Mais vous ne le savez pas. Mais le fait que vous ne le savez pas n'empêche que ça va exister quand même. Donc, le premier jour où vous entrez dans cette maison, il y a 7 ans devant vous, dans cette maison, en potentiel, dans l'invisible, si vous voulez, et qui va, jour après jour, mois après mois, année à année, se manifester selon ce que vous allez y vivre. C'est pour ça que l'architecture a été toujours considérée comme quelque chose qui doit être en lien avec le futur de l'individu, de celui qui va y habiter. Ce qui implique donc certaines connaissances dans la manière donc de bâtir, de construire, selon l'individu pour lequel c'est fait quoi. Donc aujourd'hui, évidemment, tout ça est complètement oublié, mais ce qu'on peut en tirer comme avantage, c'est prendre conscience de ça. J'entre dans ma maison ou mon appartement pour la première fois, je vais y rester un certain temps. Ça, c'est mon futur. Qu'est-ce que je veux faire de mon futur? Parce que quand j'entre et que je m'installe, en général, bah, je décore, je purifie, je lave, tout ça, j'installe mes meubles, mes trucs, et puis après, et voilà, c'est définitif. Bah, si je fais ça, ça veut dire qu'il n'y aura pas de futur. Ça veut dire que je brime, je casse, je bloque mon futur. Donc, il ne faut jamais, jamais, jamais faire ça. Dans l'Antiquité, ils le savaient, ça, mais nous, on ne le sait plus. Ça veut dire qu'un habitat, ça doit être quelque chose d'évolutif. Ça doit être quelque chose qui n'est jamais terminé. Bon, bien sûr, dans notre société matérialiste, on arrive, on se précipite comme des fous à toute vitesse et on installe tout à toute vitesse parce qu'on veut être le plus vite installé parce qu'après, on part au boulot et on a autre chose à faire et tout. Énorme erreur! Quand vous entrez quelque part, un nouvel appartement, une nouvelle maison, d'un certain point de vue, il ne faut jamais avoir fini de vous installer. Parce qu'en fait, c'est votre futur qui va se déployer et vous n'aurez jamais fini de vous installer, vous n'aurez jamais fini de toujours travailler, créer dans votre appartement. Pour justement que votre futur soit toujours quelque chose qui soit en mouvement, qui reste ouvert. Parce que si vous bloquez tout partout dans les pièces, on va chez les gens, c'est farci de meubles, c'est farci de trucs partout, c'est hyper bloqué de partout. Il y a donc, bah, déjà, il n'y a pas de vie possible, puisque la vie, c'est le mouvement. Donc si vous, dans votre chez vous, il n'y a aucun mouvement possible, que tout est barricadé, que tout est bloqué de partout, bah, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement, et donc il n'y a pas de futur. Mais ça, c'est typique du matérialiste d'aujourd'hui, hein, nous le sommes tous, et nous avons très peur du futur. Donc du coup, on barricade tout, on bloque l'énergie. Mais c'est très très dangereux, parce que l'autre chose que les anciens connaissaient aussi, c'est que la maison est l'extension du corps physique. Hein ? Les maisons de tout temps ont été construites dans l'Antiquité en tant qu'extension de notre corps physique. Là aussi, d'un certain point de vue, c'est facile à comprendre, nous sommes des esprits. Et nous nous incarnons dans un corps physique. Pour vivre sur cette terre, il nous faut un corps physique. Nous ne sommes pas du tout faits pour ça. L'être humain, en tant qu'esprit, il vit dans un monde d'esprit. Et de temps en temps, il descend sur terre, il prend un corps physique pour vivre sur terre. Sinon, c'est impossible de vivre sur terre en tant qu'esprit. Bah, sinon, on est invisible, quoi. On est des fantômes, quoi. Donc, pour vivre sur terre, il nous faut un corps physique. Donc, on le trouve grâce à la nature. C'est la nature. Bon, on dit c'est maman aussi, d'accord, mais maman, c'est grâce à la nature, parce que moi, je n'ai jamais rencontré une femme qui sait exactement ce qui se passe dans son corps. Même la science ne le sait pas. C'est la nature qui nous donne un corps, ou un scaphandre, ou une tenue d'homme grenouille pour vivre sur Terre. Hein. Et heureusement, parce que sinon, bah, on est juste un esprit, on est invisible et on ne peut pas vivre là. Donc on descend dans un corps physique. Et peut-être certains d'entre vous remarquez que notre corps physique, il est vraiment incroyablement bien fait, incroyablement riche et merveilleux de tout ce qu'on peut faire avec. Mais quand même, bon, c'est un petit peu lourd à traîner. Parfois, on se dit, on se passerait bien. Imaginez si on était pur esprit, là, je suis là, je fais ça et je suis à l'endroit où je veux. Hein. Quand je suis dans le monde spirituel, je suis là, je suis content d'être là. Puis quand j'ai fini, je claque des doigts, puis je suis là où je veux, n'importe où. Avec votre corps physique, non. On sort de la salle, on prend sa bagnole, les embouteillages et tout. Après, on peut peut-être prendre le train ou l'avion pour arriver enfin, après des heures et des heures et des heures et des heures, là où on voulait. Parce qu'on a un corps physique. C'est comme ça, c'est le jeu. Il faut accepter le jeu, c'est le jeu de l'incarnation. Mais on n'est pas du tout fait pour ça. Contrairement à ce que la science parfois nous dit, où elle nous fait croire qu'on est juste un corps physique avec des réactions psycho, émotionnello, machin truc. Mais ce n'est pas vrai. On est avant tout des esprits libres. Donc ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de connaissances pour arriver à supporter notre corps et à vivre dans ce monde qui est très, 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 très lourd pour nous en tant qu'esprit. Mais c'est le jeu. On a accepté de descendre. C'est une école, la Terre. On apprend plein de choses et c'est merveilleux et tout. Mais ce n'est pas toujours facile. Et on l'accepte plus ou moins bien. Si on est incarné sur Terre, c'est que forcément, on l'a voulu. On ne peut pas en vouloir à personne, c'est nous qui avons voulu descendre. Seulement, on ne se rappelle pas. Alors parfois, on est descendu sur Terre, mais on n'aime pas trop, quoi. On n'apprécie pas trop. Bref, on a des problèmes avec notre corps, on n'est pas super à l'aise avec notre corps, on n'est pas super à l'aise avec l'incarnation, on a des problèmes de place, enfin, vous voyez l'histoire. Si, je vous assure, il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui ont vraiment des problèmes avec leur corps, c'est difficile. Donc, imaginez, la maison représente l'extension de votre corps physique. Donc, normalement, dans l'Antiquité, grâce à l'architecture sacrée, on connaissait les lois du fonctionnement du corps physique. Et donc, les habitats étaient créés en conséquence. Aujourd'hui, on ne connaît plus rien de tout ça. On construit des trucs vite fait, bien fait, mal fait, qui ne sont pas du tout, absolument pas en accord avec le corps physique, et on vit dedans. Donc, imaginez, vous ne connaissez rien de tout ce qu'on vous explique, et vous êtes quelqu'un qui, votre corps, vous le traînez un peu comme une croix, comme vous pouvez, vous cherchez votre place partout, vous n'êtes pas super à l'aise et tout. La matière, c'est pas trop votre truc et tout. Mais bon, vous arrivez quelque part et puis là, vous installez, comme tout le monde le fait, de manière très extérieure, très matérialiste et tout, sans rien faire de spécial de ce qu'on vous montre ce soir. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, votre maison, selon le principe du miroir, vous reflétez tous vos problèmes d'incarnation, tous vos problèmes avec votre corps physique. Ce qui fait que ça va amplifier. Règle à retenir, ma maison amplifie tout ce que je suis dans mon corps. Si je suis super à l'aise dans mon corps et super à l'aise avec l'incarnation, la maison va forcément amplifier ça. Si je suis mal à l'aise avec mon corps, mal à l'aise avec l'incarnation, mal à l'aise avec tout ce qui est matériel, ma maison va me le refléter, donc elle va amplifier ça. D'où l'intérêt, la bonne nouvelle, c'est que si vous connaissez les choses qu'on vous explique, enfin un tout petit peu ce soir, eh bien vous pouvez, si vous avez des problèmes avec le corps, avec la matière, avec l'incarnation, vous pouvez très bien faire en sorte chez vous d'installer toutes sortes de choses, toutes sortes de systèmes, etc., qui fait que ça va vous aider à guérir ce problème. Plutôt qu'amplifier le problème, voyez, parce que vous pourrez être créateur dans votre maison et installer à travers différentes choses, ne serait-ce que par la circulation de l'énergie, mais aussi à travers la décoration, vous pourrez installer plein de choses chez vous qui vont vous aider à guérir de ce problème-là. Comme quoi, c'est très très important. Parce que sinon, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qui va se passer ? Si vous avez quelques problèmes avec l'incarnation et que vous vivez tel que la société vous dit de vivre et que vous faites ce qu'on vous dit de faire, dans le meilleur des cas, vous serez insécurisé. Tiens, c'est bizarre, on entend sans arrêt parler de ça. Hein, la sécurité est devenue, après l'argent, la deuxième valeur au monde. Hein, aujourd'hui, la plus grande valeur au monde, c'est l'argent. La deuxième plus grande valeur, c'est la sécurité. Et en troisième, enfin, c'est l'humain. Hein, tout le monde vous vend de la sécurité partout. Pourquoi ? Eh bien, c'est le miroir, justement, du fait que les gens sont très insécurisés. Seulement, ce n'est pas étonnant. Vu comme on vit, surtout dans les grandes villes, là, regardez à Paris, c'est hyper pollué, hyper bruyant. On vit à je ne sais pas quel étage. Enfin, on vit vraiment dans des conditions qui n'ont rien à voir avec l'humain. Donc, ce n'est pas étonnant. Après, qu'on se sent mal, qu'on se sent insécurisé et tout. Hein, l'être humain, déjà, il a besoin du contact avec la nature. Hein, ce n'est pas facile à trouver dans les grandes villes. Bon, il y a des petits parcs, vous me direz, mais quand ils sont super pollués, super bruyants, ce n'est pas évident. Mais bon, s'il y a des petits parcs au moins, il faut en profiter au maximum, parce que c'est très important pour que l'humain garde le contact avec la nature. Sinon, déjà, à notre époque matérialiste, on a perdu le lien avec le ciel. Si on perd le lien avec la terre en plus, vous ne pouvez être qu'insécurisé. Ce n'est pas possible autrement. Hein, puisque la sécurité, l'humain, il la trouve dans le double lien à la terre et au ciel. Quand il est déconnecté d'un des deux, déjà, ça tangue. Et s'il est déconnecté des deux, il est forcément mal, quoi. Il y a même des gens qui sont allés très loin là-dessus, dans ce domaine de la connexion à la Terre, du fait de se reconnecter à la Terre, à la nature, et qui ont démontré que rien que ça pouvait guérir un paquet de maladies phénoménales. Parce que la plupart du temps, le fait que les gens soient complètement déconnectés de la nature, c'est pas naturel. Et donc, ça crée plein de problèmes. Donc, dans la maison, dans son chez-soi, dans son habitat, c'est important de connaître un petit peu ces lois du corps physique et puis de notre lien à la nature, puisque, comme je disais, notre corps, c'est la nature qui nous le fournit. Nous sommes partie intégrante de la nature. On nous fait croire qu'il y a nous et notre environnement. Le simple fait qu'on parle d'environnement, ça nous fait croire qu'il y a nous et puis il y a la nature. Eh bien non, grave erreur. Nous sommes là. Où nous sommes, là, dans cette salle, nous sommes dans la nature, parce que notre corps physique vient de la nature. Partout où nous sommes dans la nature. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, vous verrez, on explique ça, on donne même une méditation dans le livre, pour justement, enfin même deux, pour être en sécurité. Travailler sa sécurité, le lien à la nature, bien sûr, mais quand on est chez soi aussi, dans son habitat, c'est très important. Parce que c'est bien sûr encore plus important si vous n'êtes pas à l'aise avec votre corps ou avec l'incarnation, parce que forcément vous serez insécurisé. Mais même si vous n'êtes pas si mal que ça dans votre corps ou avec la matière, selon où vous habitez, dans quelles conditions, ça peut vous insécuriser. Donc c'est très important de le travailler. Donc on vous explique ça aussi, c'est vraiment une base. Et donc avec certains exercices ou méthodes qui vous sont données, eh bien, ça peut vous aider à au moins minimiser l'ignorance qu'il y a aujourd'hui dans notre architecture moderne et qui n'est pas bonne pour l'humain, quoi. Donc, justement, puisque je commençais à aborder le fait qu'il faut essayer d'être créateur dans sa maison, donc il n'y a pas que la sécurité ou l'insécurité, il y a toutes sortes de moyens d'être créateur dans sa maison. Et donc Céline va vous parler un peu de certains moyens.
Oui, donc pour continuer dans le sens de ce que Pierre vient d'évoquer, en partant justement de cette capacité que l'on a, on peut dire grâce à l'habitat et puis à la juste conscience que l'on a, il faut que je sois relié à la terre et que le fait de vivre consciemment avec les différentes méthodes de l'habitat créatif, on arrive à se sentir en sécurité chez soi. Quand vous sentez que quand vous entrez chez vous, vous vous sentez en paix, en sécurité, protégé, là, on commence à dans le juste comportement, c'est-à-dire dans les fruits que l'habitat peut nous donner. L'habitat nous apporte vraiment cette expérience de la sécurité et de la protection, et aussi forcément, dans ce que Pierre vous disait, une forme de guérison par rapport à l'incarnation. C'est super important ça, parce que à partir du moment où vous êtes en sécurité, hein, on s'y voit là, on est bien chez soi, mais pas dans le sens inerte et voyez et pacha. Non, le sens où ce qui se passe en bas, c'est voyez, c'est serein. Je suis pas stressée, je suis bien là, je suis posée, je me sens comme dans la nature, dans la terre. Je suis chez moi. Et qu'en même temps, on pratique, ne serait-ce qu'au moins ce qu'on a évoqué ce soir, le jeu du miroir, par exemple. Il y a deux choses qui se développent, à la fois l'aspect sécuritaire qui me pose, qui me met en paix dans l'incarnation, qui me guérit de cela, et en même temps, il y a un réveil de l'esprit, forcément, parce que quand vous faites au moins le jeu du miroir, vous vous questionnez, il y a une activité intérieure, et surtout quelque chose de majeur, c'est la conscience qu'il existe non seulement le royaume du visible, mais aussi le royaume de l'invisible. Et qu'en moi, il y a une part que je vois et il y a une part qui est à l'intérieur et qui ne demande qu'à se révéler. Donc il y a cet invisible-là qu'on explique beaucoup dans le livre et qui est majeur, qui nous permet de faire un va-et-vient permanent entre ce que je suis et ce que je découvre et ce que j'amplifie en conscience de moi au-dedans, et puis ce qui va se révéler jusque dans mes membres, dans ma parole, dans mes comportements, dans ma créativité, dans mon habitat et même au-delà de mon habitat. Il y a comme ça cette dimension en même temps que l'aspect sécurité qui se développe à mesure que vous pratiquez l'habitat créatif, c'est-à-dire une dimension de vie au-delà des apparences. C'est ce que nous nommons la notion de sacré, hein, qui est au-delà, au-delà des préjugés religieux, etc. C'est simplement, je reconnais que dans tout ce qui existe à la fois moi, mais aussi autour de moi, dans l'habitat, tout ce qui existe provient d'une source vivante invisible. C'est-à-dire, on l'appelle comme on veut, c'est le domaine du suprasensible, de l'invisible, du divin, comme vous voulez. Mais c'est ça, en fait, qui, petit à petit, nous met dans un état très, très particulier chez soi, parce que ça vit. C'est-à-dire, on se rend compte qu'on arrive à amener de plus en plus une conscience vivante que je ne suis pas qu'un corps, et il y a une sagesse à l'œuvre, et j'apprends, et je grandis, et j'arrive dans mon habitat à rayonner davantage qui je suis, tout en étant heureux d'être sur Terre. Les deux, si vous voulez, évoluent ensemble. On se rend compte que, waouh, à un moment donné, on se pose dans l'habitat, et on se dit, voilà, là, je peux être en paix. Je peux même fermer les yeux et je me rends compte, waouh, mais là, mais je vis, j'existe, je suis un être, vous pouvez voir ça comme une étoile ou un soleil à l'intérieur de vous qui commence à grandir et à se révéler. C'est moi partout. C'est moi dans les murs, c'est moi dans le plafond, c'est moi dans telle pièce, c'est moi dans cette couleur, c'est moi dans cet objet, c'est moi dans ce plancher, c'est moi qui ai posé ça, c'est moi, mais en tant que créateur, j'ai généré. Depuis ce que j'ai envie de révéler et qui est totalement libre et unique à moi, je génère un rayonnement et en même temps, ce rayonnement m'ouvre le cœur. Parce que quand vous êtes en sécurité et que vous avez cet aspect du derrière, de l'invisible, que vous commencez à accepter, vous commencez à jouer avec ça, ben ça s'ouvre ici, ça s'ouvre au niveau du cœur. Et ça vous amène quoi? Ça vous amène de la gratitude. La gratitude est le fruit de cette guérison. Quand vous ressentez de la gratitude pour un lieu, au début, ça vous semble bizarre de dire « je vais avoir de la gratitude pour mon habitat ». Mais non. Au fur et à mesure que vous le vivez, vous avez de la gratitude, non seulement pour l'habitat, mais pour le principe de l'incarnation. Parce que vous vous dites « ben voilà, moi je suis un esprit, et grâce à ce corps qui effectivement est lourd, dense et tout, c'est pas facile. Mais quand je joue avec ça, jusque dans le principe du miroir de l'habitat, j'arrive à aimer être incarné parce que grâce à cela, je peux gagner en conscience, en puissance créatrice et révéler le soleil que je suis sur Terre. Et ça, dans l'habitat, si vous faites bien les méthodes et tout, vous pouvez vivre cette réjouissance et ça donne une envie d'aller plus loin, une envie d'aimer encore davantage. Je ne vais pas dire j'aime ma maison parce que, vous voyez, des critères extérieurs. Non, c'est parce que l'amour de la vie, l'amour du divin qui s'incarne, grâce à moi, dans ce jeu-là, dans ce jeu du miroir, dans cette révélation infinie, il existe. Donc c'est forcément quelque chose qui vous permet d'aimer votre habitat, mais dans le sens où vous dépassez les murs. Voyez, vous vous rendez compte que c'est vous au centre, et puis que tout est possible, et qu'à chaque fois vous évoluez, vous transformez, vous modulez vous-même ce qui vous paraissait dur et concret, tout autant que le corps l'est. Mais en fait, c'est l'esprit qui est vainqueur au centre. C'est un esprit qui s'ouvre, dont le cœur s'ouvre, et qui va aimer être là, aimer créer, aimer jouer avec l'incarnation, justement. Et donc, vous pouvez amplifier ces domaines-là, à la fois dans le sens de la sécurité, comme on l'a vu, par rapport au corps, et puis arriver à être vraiment, vraiment bien là, à sa place, dans son habitat, et ça se projette même en dehors de l'habitat, bien sûr. Et vous pouvez aussi augmenter le principe de vie, le principe de la perception du sacré, parce que chacun de nous est sacré. Donc, grâce à la méditation créatrice, ça c'est évident, hein, quand on médite, on augmente forcément la subtilité de l'être, on élève notre existence, notre conscience, ça c'est sûr. Hein. Mais il y a aussi tout simplement la créativité en elle-même, hein, qui n'est pas forcément que liée à l'art, mais ça l'est. Hein. Mais d'arriver à ce que dans mon habitat, je sois conscient que je crée quelque chose, même si c'est ponctuel, hein, même si c'est pas tout le temps, d'arriver à me dire, voilà, en fait, je suis bien en paix, je suis ouvert, j'ai conscience et j'ai confiance en ce qui est au-delà des apparences. Et grâce à cette gratitude, je fais un espace. Plus vous avez de la gratitude, plus vous allez être ouvert et plus vous allez être inspiré dans votre lieu. Plus vous avez cette gratitude-là, plus vous allez être ouvert et recevoir comme des impulsions, des inspirations, des appels à de la nouveauté dans votre vie. Quelque chose qui va changer une part de vous-même que vous ne connaissiez pas. La créativité, c'est ça. Je vais apporter quelque chose de nouveau qui est une part de moi qui se révèle parce que je suis ouvert à ce qui est derrière le voile. Et je vais le manifester par une créativité artistique, mais ça peut être aussi bien un travail dans l'habitat que quelque chose de nouveau que je vais appliquer dans mes relations, dans ma communication, dans un comportement. Et qui va s'expanser comme ça dans l'habitat et qui va lui qui va le faire vibrer d'amour et de vie. Et ça, c'est vous qui en êtes le générateur, c'est vous qui en êtes l'initiateur, je dirais. Donc le créateur, c'est soi, et il n'y a aucune limite, aucun mur qui peut limiter le rayonnement de l'esprit dans votre habitat. Et ça, c'est une guérison majeure que vous emportez partout. N'est-ce pas? On peut l'amplifier par des méthodes, on peut l'amplifier par des actes même ponctuels et réguliers.
Oui,
c'est
oui.
Super important, il ne faut pas surtout pas vous priver de ça.
Oui, donc en faisant tout ce que Céline vous expliquait, plus d'autres choses qu'on explique dans le livre aussi, ce que ça fait, c'est que ça élève le niveau vibratoire de votre maison. Puisque ce qu'on ne vous a pas dit, c'est peut-être une chose importante quand même à dire, c'est que la matière, son premier rôle, c'est d'absorber. La matière, donc la nature, hein, son rôle majeur, c'est l'absorption. Et c'est ce qui lui permet, par exemple, quand, dans un bâtiment, dans une maison, d'avoir une certaine mémoire passive. C'est-à-dire que dans les murs sont enregistrés tout ce qui a été vécu dans l'endroit. C'est pas une mémoire comme l'être humain, hein. C'est une mémoire beaucoup plus basique qui est comme passive. Mais ça s'imprègne. Hein. Par exemple, des gens ont vécu dans un appartement ou une maison, ils ont passé leur temps à se disputer, eh bien, tout ça est imprégné sur les murs. Donc quand vous rentrez et vous visitez, si vous êtes un tout petit peu sensible, vous allez vous dire « Oh là là, mais là je sens des trucs, ah, c'est pas bon ça, c'est très négatif, c'est très énergétiquement dur, mauvais. Enfin, vous pouvez même, si vous êtes très fin, sentir qu'il y a eu beaucoup de colère. Donc, soit ça va vous demander un énorme travail de purification, soit il vaut mieux laisser tomber. Bon, le pire, c'est si l'un des deux a assassiné l'autre. Alors là, il vaut mieux fuir à toutes jambes. Hein, ça, c'est sûr. Mais ce qui veut dire qu'il faut le savoir aussi. Il ne faut pas hésiter à demander. Parce que les murs s'imprègnent de tout ce qui se passe. Donc là, je parle de l'aspect négatif. Mais en positif, c'est pareil. Les murs s'imprègnent de tout ce qui s'est passé en positif. D'où quand Céline explique pour l'aspect sacré, des méditations qu'on peut faire, tout ce qu'on donne à sa maison, ça s'imprègne aussi. Donc si au départ vous avez bien purifié, ou si vous avez la chance d'entrer dans un endroit qui est neuf ou quasi neuf, où il n'y a pas beaucoup de purification à faire, donc après, vous l'imprégnez de vous-même. Hein, et bien sûr, du meilleur. Hein. Le simple fait, par exemple, si vous, un jour vous réussissez quelque chose, hein, vous avez une victoire, vous êtes heureux, vous êtes content, vous mettez dans la pièce que vous préférez, par exemple, vous asseyez au milieu, puis vous faites « Waouh !» Vous l'imaginez, vous le repassez en boucle, et puis vous êtes heureux, puis vous exprimez vraiment votre joie et tout. Mais ça, c'est de l'énergie qui rayonne de vous, et qui va imprégner vos murs et puis vos meubles et tout ce qu'il y a dans la pièce. Et si vous avez plusieurs pièces et que vous voulez le faire dans chacune, surtout, vous ne privez pas. Allez-y à fond. À chaque fois que vous vivez quelque chose de bien dans votre vie, qui vous rend heureux ou quoi, exprimez-le à fond, chez vous. Parce que vous allez imprégner votre endroit. Et ça, cette énergie positive, cette énergie de bien, c'est quelque chose qui élève le niveau vibratoire de votre endroit. Alors bien sûr, après, le top, c'est comme en parlait Céline, si vous êtes artiste ou créateur d'une manière ou d'une autre, et que vous pouvez créer quelque chose de vous-même, quelque chose que vous aimez, qui vous plaît, qui est le résultat d'un dépassement de vous-même, d'une transcendance, et quand vous avez réussi à le faire, vous êtes tout joyeux d'avoir réussi, d'avoir atteint votre but, eh bien, tout ce travail-là, toutes ces étapes-là, ça imprègne l'endroit où vous étiez. Et après, une fois que vous avez réussi, oui, je ne sais pas, vous faites un tableau, une sculpture, mais ça va être imprégné de tous vos efforts, de tout votre bien, de toute votre transcendance. Et après, vous pouvez le mettre dans un endroit de choix, sachant que ça va rayonner. Et vous pouvez même, une fois que vous l'avez fini, que vous l'installez, dire « Ouais, je suis content d'avoir réussi ça, c'est la première fois, ou machin, ou truc. » Et puis, vous ouvrez votre cœur, et comme disait Céline, vous exprimez votre gratitude, votre amour et tout. Et puis... l'objet, le tableau, la sculpture ou quoi que ce soit que vous ayez créé sera une vraie pile d'énergie de bien qui va rayonner. Et donc ça, c'est très important. Il ne faut surtout pas vous priver de ça. Et plus vous en mettez dans votre maison, et mieux c'est. Donc vous pouvez comme ça faire ça avec des objets. Vous pouvez charger comme ça un objet. Que soit, là, on disait que vous avez créé quelque chose. Mais si vous n'êtes pas super créateur, c'est pas grave, vous achetez un objet. Et puis vous pensez à votre victoire et vous le chargez, votre objet, il va être plein de votre victoire et vous le mettez à un endroit précis. Hein, c'est vraiment très très important de faire ça. Parce que plus vous faites ça et plus votre maison gagne en énergie de bien. Et l'énergie de bien, c'est pas juste un truc comme ça philosophique, c'est... une énergie de bien qui a une valeur. D'ailleurs, il y a des gens, comme par exemple les radiesthésistes, qui savent mesurer ça. Hein, ils viennent avec une échelle de Bovis, par exemple, ils vont mesurer la vibration de votre endroit, de vous-même déjà, mais de votre endroit. Par exemple, si on prend l'échelle de Bovis, pour être en santé, il faut être à 6 500-7 000 hein, sur cette échelle. Bon. Si votre habitat, vous le travaillez, là, comme on vient de dire, il va monter à 9 ou 10 000 ou plus. Or, pour tomber malade, il faut descendre au moins à 6 000, voire 5 000, 5 ou 5 000. Si votre lieu il est à 9 000, et je suis désolé, vous ne pourrez jamais tomber malade. Même si vous essayez de le faire exprès, vous n'y arriverez pas. Dehors, en dehors de chez vous, vous pourrez, si vous ne faites pas attention. Mais chez vous, ce sera impossible. Aussi, nous, on l'a vécu des centaines de fois, on va travailler, voyager et tout, on rentre chez nous, on est lessivé, crevé, et en moins d'une heure, on sent, rien que le fait d'être chez nous, mais en faisant rien, on sent qu'on commence à se régénérer. Et on se régénère 10 fois plus vite que si on est n'importe où. Hein, parce que notre maison, elle a un niveau vibratoire très élevé. Et donc, c'est, même si on arrive complètement ratatiné, en très peu de temps, on sent « Ah, ouais, ça fait du bien !» et tout. On sent qu'on se régénère. Parce que c'est impossible d'être malade dans cet endroit, parce qu'il vibre trop haut. Hein, la santé ou la maladie, c'est une question de niveau vibratoire. Hein, il y a un certain niveau, bah, on est en santé. En dessous, on a un rhume, des petites choses, on descend encore des maladies plus graves, puis quand on descend encore pire, là, c'est le cancer. Et quand on arrive en bas, bah, on remonte là-haut. Ce qui n'est pas forcément le pire. Le pire, bah, je trouve, c'est plutôt les maladies. Hein, parce que quand on remonte là-haut, on retourne chez nous, en fait. Hein, on dit juste bye-bye au corps physique et on retourne chez soi, où on est super bien avec... C'est comme si on avait tous les super pouvoirs qu'on peut imaginer hein, quand on est là-haut. Parce qu'on n'a plus le corps physique qui nous bloque de partout. Hein, mais comme je disais, il faut accepter les règles du jeu quand on est incarné. Donc finalement, ça vaut vraiment, vraiment, vraiment le coup d'être créateur chez soi. Hein, et que cette dimension du sacré ce qu'on appelle le sacré, nous... Qu'est-ce qui est sacré ? Bah, c'est l'esprit que nous sommes. Nous sommes des êtres sacrés parce que nous sommes des esprits. Nous sommes des esprits éternels qui nous incarnons dans un corps physique. Seul le corps physique est mortel. Mais nous, en tant qu'esprit, on est immortel. Et donc, il ne faut pas se priver de révéler l'esprit que nous sommes. Et pourquoi le faire à certains endroits, dans notre travail ou je ne sais quoi, pourquoi pas le faire chez nous ? Pourquoi chez nous, on arrive là comme des andouilles devant la télé, et puis voilà, puis on fait plus rien, puis pff, on en a marre et tout. Non, non. Chez soi, on peut être créatif et on peut faire plein, plein de belles choses et justement avoir un lieu de vie et qui soit justement, par notre créativité, comme une porte ouverte perpétuelle sur le futur. Parce que c'est le futur. C'est notre futur. Donc si on est perpétuellement créatif dedans, eh bien, on va s'ouvrir des portes pour le futur et des bonnes portes, et pas seulement dans la maison, partout, dans notre vie. Donc c'est important de comprendre tout ça, et ça nous donne donc une vision de la vie qui est complètement différente, et en tout cas au moins de l'habitat aussi. Ça donne une vision joyeuse. Ça, oui, c'est la vie devient un jeu, et puis... Si on passe au moins la moitié de son temps, voire les deux tiers de son temps chez soi, et qu'on arrive à être créatif comme ça, bah après, ça, on peut l'exporter partout dans le reste des autres domaines de notre vie, et puis ça change tout, quoi. Donc surtout, il ne faut pas s'en priver, quoi.
Mais c'est à peu près l'essentiel de ce que nous avions envie de vous partager ce soir. En ce qui concerne l'habitat créatif, sachant que c'est infini, mais l'essentiel c'est soit créateur au sein de son habitat pour exporter ensuite le soleil que vous serez devenu. Alors c'est ce qu'on vous souhaite de meilleur. Merci de votre écoute.